Bonjour et bienvenue dans cette émission. Le chef de l'État a prononcé ce dimanche son discours deux semaines après les consultations. À travers ce discours, Félix Tshisekedi a annoncé qu'il va nommer un informateur afin d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. Étant donné que, selon lui, l'actuelle majorité s'est effritée, le chef de l'État a aussi appelé à la mobilisation générale. Quelle analyse vous faites du discours du chef de l'État et quelles conséquences ce discours pourrait avoir sur les institutions politiques? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons professeur Alphonse Mahindo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Mahindo.
Bonsoir.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir, je salue aussi le professeur Alphonse Mahindo.
Et maître Charles Mouchizi, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, il est analyste indépendant. Bonsoir maître Charles Mouchizi.
Bonsoir, je salue les deux éminents professeurs qui sont présentés avant moi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation congolaise ce dimanche 6 décembre à travers un message diffusé en direct sur les antennes de la RTNC, faisant suite aux propositions soulevées par les différentes personnalités et groupes sociaux politiques qu'il a consultés. Félix Tshisekedi annonce la nomination d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale qui pourrait former un nouveau gouvernement pouvant travailler dans sa vision. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Hirung.
Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. L'union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité.
Professeur Alphonse Mahindo, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Et comment vous analysez cette grande annonce du discours du chef de l'État de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité au Parlement?
Merci beaucoup. Alors je voudrais d'abord dire si le président de la République peut désigner un informateur pour former un gouvernement, selon le pouvoir que la Constitution lui donne. Mais ça, c'est une situation qui devrait arriver lorsque on n'a pas une majorité qui est donc connue, établie. Or, nous avons une majorité qui est là, qui est établie. Et donc, on ne peut pas désigner un nouvel informateur sans avoir préalablement constaté qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée. C'est qu'on n'a pas observé. Au contraire, on observe qu'il y a une espèce de complicité entre le chef du gouvernement avec son gouvernement, donc le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est une crise qui est créée. Vous, on avait déjà une crise, Mais là, c'est l'exacerbation de la crise qui va arriver. En fait, lorsqu'on veut chercher une nouvelle majorité dans cette même assemblée, et les problèmes politiques qui ont prévalu à la situation qui a conduit le président Bola à devenir un informateur demeurent. Donc, ce sont les mêmes parlementaires qui soutiennent le gouvernement de Ilunga, qui sont toujours là. Et pour la majorité, ce sont des gens qui sont issus du FCC. Alors, qu'est-ce qui dit que ces gens-là, aujourd'hui, vont changer complètement de manière de vision par rapport à la chose publique pour soutenir son action, l'action du président de la République? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieux autres. Donc, si on veut faire véritablement un nouveau gouvernement qui puisse répondre à toute cette litanie de problèmes que tout le monde connaissait, on n'a pas besoin de consultation pour ça, il faut véritablement attaquer la source du problème. La source du problème, c'est quoi? La source du problème, c'est d'abord comment on est arrivé à cette coalition. C'est les résultats de l'élection de 2018 qui n'ont pas été pris en compte. Et ensuite, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez là une relation contre nature entre les deux courants politiques, deux familles politiques qui n'ont rien en commun à part la volonté d'avoir le pouvoir. Et en même temps, du côté de Cash lui-même, vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer les affaires publiques, qui se retrouvent là-bas en amateur et qui sont en train d'apprendre, et dont aussi un certain nombre d'entre eux veulent avoir de l'argent, parce qu'on sait ça. Et du côté du FCC, vous avez des gens qui ont l'habitude de gérer et qui n'étaient pas préparés à partager le pouvoir avec un autre camp, avec un autre groupe. Donc ce sont là les vrais problèmes. Et donc si on fait ce diagnostic, alors on peut aller vers de vraies solutions. La vraie solution, ce serait quoi? C'est pas de faire une demi-mesure comme définir un informateur. La vraie solution, c'est de dire, voilà, puisque nous sommes dans une crise parce qu'il y a un problème de légitimité à la base, et que personne ne peut véritablement se prévaloir d'être soutenu populairement par le peuple, alors ce que lui a annoncé qu'il ferait dissoudre l'Assemblée, il devrait lui-même mettre d'abord son propre mandat en jeu, ainsi que tous les mandats qui ont été mis en place en 2018 pour rabattre les cartes. Alors on aurait un nouveau président avec une grande légitimité, on aurait une assemblée qui serait donc issue véritablement du peuple. Voilà, c'est ça les grandes réformes qui devraient être attendues pour faire face à la crise et aux problèmes que lui-même a identifiés qui sont énormes.
Et donc, professeur Alphonse Mahindo, lorsque vous dites que la vraie solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et aussi que le chef d'État puisse mettre son mandat en jeu, cela voudrait dire que vous rejoignez, n'est-ce pas, cette éventualité qui a toujours été évoquée par les FCC et qui estime que si les choses ne marchent plus, ils sont disposés, n'est-ce pas, à aller à des élections, mais à tous les niveaux.
Oui, exactement. Vous savez, c'est que je pense profondément que c'est là la vraie solution. Et certains ont évoqué, même dans les camps de Cash, j'ai suivi, ont évoqué la situation de la France avec le général de Gaulle. Et voilà, de Gaulle, dans cette situation, il remettrait son mandat en jeu. Il demanderait au peuple de trancher ce litige-là, entre lui et le peuple, parce que c'est une question de confiance. La politique, si on veut gouverner, il faut avoir la confiance du peuple. Alors, qui dit que le président, il a la confiance du peuple? Comment ça se fait qu'une élection qui a été décriée comme quoi c'était une parodie? Comment peut-on dire qu'il y a seulement l'élection présidentielle qui était bonne et les autres n'étaient pas bonnes, donc c'était une fausse majorité fabriquée toute pièce? Donc on a là, si vous voulez, c'est un problème global qui demande une solution globale.
Vous avez dit qu'on ne peut pas chercher à mettre en place une nouvelle majorité dès lors que la majorité qui existe est encore identifiée, mais vous l'avez suivi dans son discours, lui il justifie sa décision notamment en affirmant que l'actuelle majorité, même si elle est là, mais c'est effrité.
Oui, exactement. C'est ce que lui, il dit que cette majorité s'est effritée. Or, le FCC continue à revendiquer 338 députés et le CASH, il avait une cinquantaine de députés et autres. Voilà. Donc, ça signifie quoi? Il fallait que l'on puisse constater d'abord ça au niveau de l'Assemblée, ce qu'on n'a pas pu constater. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, au président de déclarer ça de cette manière-là, c'est à l'Assemblée de constater qu'il y a une rupture et ou au gouvernement de constater que le gouvernement n'est plus soutenu par la majorité et il y a donc une motion qui est faite contre le gouvernement, à ce moment-là, on comprendrait que la majorité qui était là ne soutient plus le gouvernement, donc il faut inventer le gouvernement pour ça. Or, on n'en est pas là, on n'a pas connu ce cas de figure. En ce moment-là, ça devient un problème purement politique. Purement politique, et je pense que la nomination d'un informateur, son pays a une logique de vouloir simplement essayer de calmer les yeux des uns des autres qui attendaient qu'ils puissent faire une dissolution, qu'ils puissent nommer un autre gouvernement. À mon avis, ça, on ne va pas aboutir à ça. Il n'a pas eu le courage de prendre des mesures fortes qui étaient attendues par rapport à tout ce que les gens ont exigé, si vous voulez.
Voilà. Lorsque vous dites qu'il faut attaquer les problèmes à la source et que selon vous, les problèmes, c'est comment on est arrivé à cette coalition, et vous évoquez notamment les résultats des élections de 2018. Et dans les faits, comment pourrait-on, n'est-ce pas, s'attaquer à ces problèmes en évoquant notamment ces élections de 2018, professeur?
Concrètement, ce qu'on devrait faire, c'est de dire, voilà, nous allons convoquer des élections générales, on fixe une date. Et ça, c'est le chef de l'État qui peut décider de ça. C'est son pouvoir constitutionnel. Il dit, voilà, dans 2 ans ou dans 18 mois, je convoque des élections générales, élections locales, municipales, provinciales, législatives, sénatoriales et présidentielles. Et je convoque ces élections-là et il se mobilise. Et comme il a dit qu'on allait constituer des provisions pour organiser ces élections-là, et il fait ça et il prend les mesures nécessaires pour que les institutions qui doivent porter ces élections puissent être mises en place et de manière consensuelle ou tout simplement on prend les institutions telles qu'elles sont là, alors on organise des élections. Et c'est ce qu'il aurait dû faire. Concrètement, c'est ce qu'il devrait se faire. Il annonce qu'il convoque des élections générales. S'il fait ça, il prend une ordonnance, tout le monde sait que c'est la fin et on ne se prépare pour les élections. En ce moment, on irait vers les élections générales. Mais en disant qu'en fait, on va aller jusqu'en 2023, même s'il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée si jamais il n'y a pas de majorité. Alors s'il dissout l'Assemblée, il aura l'argent ou puisqu'on dit que quand on évoque les élections anticipées, on pose le problème d'argent. Et s'il doit dissoudre, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour organiser ces élections-là? Donc, c'est une question de volonté politique. Si on veut construire une démocratie durable, si on veut écouter vraiment le peuple, puisqu'on se revendique du peuple, il faut écouter ce que le peuple a dit. Qu'est-ce que le peuple a dit en 2018? Il a été clair, il voulait un changement profond. Mais ce changement n'a pas eu lieu. Il faut donc balayer le système qui est mis en place. Comme lui-même le président l'avait dit, il faut déboulonner le système. On ne peut pas déboulonner le système en essayant de débaucher les membres de ce système-là qui font que le système marche et qui tue le pays. Et donc, ça ne va pas. Et vous demandez une chose et son contraire. Pour moi, ça obéit à une logique de communication politique. Et c'est là que je voudrais dire que le président, pour le coup, on peut dire qu'il a réussi sa communication politique. Il s'est montré aussi très combatif pour souligner qu'il a écouté les gens et qu'il veut vraiment changer les choses. Bon, alors, mais ça, on a toujours entendu. Voyez-vous, c'est pas la première fois qu'on entend un président, et lui-même aussi, c'est pas la première fois qu'on entend dire qu'il va changer, qu'il a écouté, qu'il a senti, etc. Mais c'est les actions qu'on attend.
Merci. Professeur Jeff Moudimbi, professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Le chef de l'État vient d'annoncer, n'est-ce pas, il a annoncé ce dimanche la nomination d'un informateur afin d'identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à cette décision, professeur Jeff Moudimbi?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que le décor était déjà planté pour qu'on puisse en arriver là. En effet, dans le discours du président de la République, j'ai retenu pratiquement 2 décisions qu'il a prises. Celle de montrer que la coalition FCC-CACH n'existe plus et celle de nommer un informateur pouvant identifier la nouvelle majorité. En effet, le président de la République a bien souligné que la majorité actuelle au niveau de l'Assemblée s'est effritée. Bon, moi, c'est là que je me suis posé la question, celle de savoir quels sont les indicateurs, quels sont les éléments à partir desquels le président de la République est arrivé à cette conclusion-là. Nous avons beaucoup de révérence à sa personne, étant donné que c'est la haute personnalité de la République, et nous estimons qu'il en a réellement les éléments. Alors, comme il en a les éléments, il va nommer un informateur qui va identifier la nouvelle majorité. Mais cette nouvelle majorité, nous pensons qu'elle sera constituée non pas avec des hommes nouveaux, mais avec des hommes qui ont conduit le pays là où il est. Alors, ce qui fait que le désespoir peut encore perdurer parce que ce sont les mêmes personnes qui auront changé d'un camp vers un autre. On aurait fait peut-être ce que l'on dit, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. À ce niveau, nous pensons aussi que dans une vision purement systémique, les mêmes éléments peuvent, lorsqu'ils sont inféodés dans un autre système, dans une autre vision, ils pourraient effectivement marcher dans le sens voulu ou souhaité par le président de la République. Donc, s'il y a réellement le phénomène de migration ou de la transhumance, parce que pour le moment, on ne peut que tabler sur la transhumance politique, c'est-à-dire les migrations de certains membres ou certains partis politiques qui étaient dans le camp du FCC, qui vont émigrer vers le CASH pour former l'Union sacrée pour la nation. Alors, si réellement ces gens émigrent, alors nous pensons que réellement le président de la République aura toutes les capacités pour donner une nouvelle impulsion à cette majorité, de manière à ce que cette majorité travaille réellement pour le compte de la population. Mais ce qui est évident, en matière de prise de décision, il faut d'abord réunir le maximum d'informations sur la nature du problème, et nous pensons que à travers les consultations, le président de la République a réuni réellement le maximum d'informations. Il faudrait aussi réunir le maximum d'informations sur les réactions de toutes les composantes qui sont concernées par la décision de loin ou de près. Alors, c'est vrai, le président de la République a annoncé ses couleurs, mais le FCC, qui prétend avoir encore la majorité au niveau du Parlement, est-ce que le FCC va se laisser faire? Est-ce que le président de la République a pu envisager quelle sera aussi la réaction de ce camp-là pour qu'on ne tombe pas dans une situation où la crise est encore exacerbée davantage, ainsi que le professeur Alphonse venait aussi de le dire. Donc, nous pensons, comme c'est une mesure qui a été prise au plus haut sommet de l'État, le président de la République a eu vraiment le temps nécessaire d'étudier le problème dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions, pour arriver à cette situation-là. Mais sinon, on sait que en politique, on ne se fait pas des cadeaux. En politique, on ne peut pas se comporter comme si nous étions dans la religion. Lorsqu'on vous gifle par la joue droite, et vous donnez aussi la joue gauche. Mais ici, par le phénomène homéostasique, le camp du FCC va chercher aussi à se reconstituer, à se consolider davantage pour conserver sa position. Mais nous pensons que si réellement la nouvelle majorité n'est pas identifiée, le président de la République venait de le dire qu'on va conduire, il va solliciter maintenant les élections anticipées pour que la population lui donne maintenant une nouvelle majorité qui peut marcher dans sa vision. Mais le problème qui se posera est le suivant. Avec quelle commission électorale on va organiser ces élections?
Pasteur, dans votre intervention, vous avez dit que le décor était déjà planté pour que l'on puisse en arriver là. Et donc, vous voulez dire que le chef de l'État n'avait pas d'autre choix?
Dans une de mes interventions, j'avais dit que l'identification de la nouvelle majorité était le moindre mal, plutôt que de procéder par la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que cette dissolution de l'Assemblée nationale coûterait plus au pays. Lorsqu'on regarde seulement le budget de ce grand pays, mais ce budget, même si vous pouvez mettre d'importantes intelligences, mais vous ne pouvez rien, parce que je ne cesse jamais de soutenir le fait que sans moyens, il n'y a pas moyen. Le budget est très moindre. Regardez par exemple la petite Suisse, avec une superficie multipliée fois 57 pour trouver la dimension de la RDC. En 2006, rien que les recettes issues du tourisme, c'était 10,64 milliards. Mais avec un grand pays comme le nôtre, un budget qui avoisine les 6 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on peut faire? Professeur. Donc, je pense que le moindre mal serait pratiquement ici d'identifier la nouvelle majorité si réellement elle sera identifiée, mais au cas où elle est identifiée, parce que ce sera toujours les mêmes personnes, alors il faudrait leur donner une nouvelle impulsion, mettre vraiment des garde-fous pour qu'on ne puisse pas retomber dans la situation que nous avons décrite.
Professeur Jacques Moudimbi, vous dites que le moindre mal serait, n'est-ce pas, d'identifier la nouvelle majorité au lieu de procéder à la dissolution du Parlement. Vous avez suivi les chefs de l'État dans son discours. On a l'impression que les dés sont jetés parce qu'il a dit qu'il a nommé un informateur pour que celui-ci puisse identifier une nouvelle majorité. Et au cas contraire, il ne va pas hésiter à dissoudre le Parlement parce qu'il estime que les conditions pour cela sont réunies. Et donc, cela voudrait dire que même si aujourd'hui, il n'arrive pas à travers le travail de l'informateur à avoir une nouvelle majorité, il finira par dissoudre le Parlement.
Je voudrais préciser ici que la dissolution du Parlement est suffisamment encadrée par la Constitution. La Constitution dispose que la dissolution du Parlement peut intervenir en cas de crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Et le gouvernement est constitué du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres, etc., etc. Donc, à ce niveau-ci, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une crise entre le Parlement et le gouvernement ? Bon, à mon niveau, je ne sais pas vraiment identifier cette crise entre les deux institutions, en dehors du fait que le président de la République lui-même a dit « la crise existe du fait, par exemple, du refus de la composante FCC d'assister à la prestation des serments des magistrats de la Cour constitutionnelle ». Bon, est-ce que vraiment c'est cela une crise persistante ? Bon, là, il y a à s'interroger.
Merci.
Mais ce qui est évident, c'est que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire actuelle, à moins que cette majorité change.
Merci.
Et entre le gouvernement Ilunkamba et le Parlement, personnellement, je n'arrive pas à identifier quelle est cette crise persistante.
Merci, professeur.
Qui demeure entre les deux.
C'est merci, professeur.
J'ai dit que l'identification de la nouvelle majorité, elle est la moindre mal.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Maître Charles Mouchizi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous êtes analyste indépendant. Quelle analyse vous faites du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi?
C'est un discours qui donne l'impression que le chef de l'État a tout son temps et qu'il peut aller d'échéance à échéance politique jusqu'à épuiser ses 5 années. Il est déjà à presque la moitié de son mandat. Et tout ce qu'on peut en tirer en termes de bilan, c'est des voyages très très coûteux, c'est un cabinet très coûteux au pays, une catastrophe budgétaire et une absence d'une politique réelle, que ce soit en matière d'éducation, de réforme de l'administration publique, de la lutte contre l'insécurité alimentaire, etc., etc. Rien ne le bloque pour renforcer l'administration publique qui est la colonne vertébrale du fonctionnement du pays. Rien ne le bloque pour reformer l'enseignement, donner de la valeur à l'enseignant et à l'administration de l'enseignement. Rien ne le bloque pour mettre en place des programmes agricoles. C'est un discours qui donne l'impression qu'il n'a pas conscience qu'il est décideur, qu'il est président de la République et qu'il peut décider sur un certain nombre de choses sans nécessairement faire allusion à la fameuse coalition qui le bloque lui, mais qui ne bloque pas le peuple. C'est lui finalement qui devient un blocage pour les progrès, pour ce qui est des programmes, des projets de développement du peuple. Le peuple ne demande pas beaucoup de choses. Une école qui fonctionne, une nourriture accessible et des choses aussi simples pour lesquelles il peut décider. Il donne surtout l'impression, et ça c'est plutôt triste de la part de notre chef de l'État actuel, qu'il ne respecte aucun accord et qu'il ne peut exécuter de bonne foi aucun engagement.
Alors, lorsque vous dites...
À Genève, passant par Kamer et jusqu'à Kabila, le chef de l'État n'a que des divorces à faire finalement, et il n'a jamais servi, comme le dit un adage connu en droit, pactation de Rwanda, les accords doivent être servis et être exécutés de bonne foi. Et c'est tout ça qui lui manque, donc il donne l'impression de quelqu'un qui tâtonne et qui comprend déjà pas le rôle d'un chef de l'État en matière de décision, en matière de convivialité avec ses partenaires politiques et en matière
de services qui sont attendus de lui de manière beaucoup plus urgente que la population.
Maître Moussizi, lorsque vous dites que, à travers ce discours, il donne l'impression qu'il est l'élément des blocages, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous avez suivi l'approche qu'il a utilisée. Il a commencé d'abord par résumer, n'est-ce pas, les différentes propositions qui lui ont été faites par les différentes personnalités qu'il a reçues. Il affirme qu'il y avait une convergence des vues pour que l'on puisse refonder l'État. Donc, il estime qu'il il y a beaucoup de blocages. Et que, parce qu'il a écouté tout le monde, et qu'il faut nécessairement tenir compte de ce que les gens lui ont dit. Et pourquoi vous estimez qu'en prenant une telle décision, il donne l'impression de devenir un élément de blocage?
À vrai dire, il n'avait même pas besoin d'écouter des gens pour des problèmes qu'en tant que Congolais, il connaît lui-même. Pour des problèmes qui sont déjà identifiés dans plusieurs diagnostics, la plupart des politiques de gouvernance de ce pays depuis des années. Et donc, il n'avait même pas besoin d'aller jusque-là. Il avait juste besoin de comprendre par où il peut commencer pour servir le peuple et pas pour se servir lui-même en termes de confort politique qu'il cherche. La deuxième chose, c'est qu'il annonce en fait des choses qui vont le clouer lui-même parce qu'il n'aura pas les moyens de sa politique pour à la fin, en dissolvant le Parlement, remettre en place cette institution qui est très très coûteuse en termes d'organisation de vote, etc., etc. La troisième chose, c'est qu'il ne comprend pas que lorsque on engage un bras de fer, on se bloque soi-même. Il manque fondamentalement un minimum d'élégance politique pour pouvoir parler à ses partenaires, parce que ses partenaires sont des concitoyens, sont des Congolais, dont les parents, dont les tantes, les cousins, les enfants vivent les mêmes problèmes que nous tous, que tous les enfants de ce pays. Et donc, avec juste un tout petit peu d'élégance, on peut résoudre le problème d'homme, parce qu'il s'agit finalement des problèmes de relations. Ça n'a rien à voir avec la politique. Une politique d'homme mature ne s'attaque pas sur des querelles, et s'attaque sur des problèmes structurels, sur des problèmes sur base desquels on peut trouver des solutions, des faits beaucoup plus larges qu'individuels. Parce qu'aujourd'hui, à tous les problèmes qu'il a soulevés par rapport à son confort politique qu'il recherche, à quoi il sert la population? Quelle est la part de la population dans la dissolution du Parlement aujourd'hui? Quelle est la part de la population dans la guéguerre, dans le discours qu'il a germé aujourd'hui? J'aurais bien voulu entendre, par exemple, qui dit « En attendant que je nomme un informateur pour identifier la nouvelle majorité si besoin est, le gouvernement, ou en tout cas tel ministre, sont chargés des actions urgentes, telle en faveur de la population. » Il n'a cité aucune fois le besoin de la population et la manière avec laquelle il entend y apporter des solutions. Tout son problème depuis le début de son mandat est politique. Il n'est pas social, il n'est pas économique. La preuve, c'est qu'il a dilapidé tout le budget de l'État en très peu de temps, et aujourd'hui le pays est presque à la dérive en termes d'investissement. Aucun investissement n'a été fait. Dans les voyages, dans les salaires, dans les missions effectuées, dans le plaisir de conseiller à la présidence et à la primature.
Mais ça,
c'est plutôt regrettable. L'impression qu'il donne, c'est qu'il ne comprend pas qu'il est décideur, et qu'il est décideur en faveur de 100 millions d'individus et pas en faveur d'une centaine d'individus autour desquels graviterait le pouvoir aujourd'hui.
Oui, Maître Moussizi, vous estimez qu'il devait plutôt parler avec ses partenaires, mais vous avez bien suivi les discours, hein, au début du discours, quand vous les suivez, c'est comme si il dit qu'il a fourni beaucoup d'efforts pendant toutes ces deux années, il n'a fait que ça, parler avec les partenaires, et il a consenti beaucoup de sacrifices, mais il se rend compte que les choses n'évoluent pas, entre-temps, la misère ne fait que s'accentuer, et donc lui, en tant que garant de la nation, il devait prendre une décision. À sa place, vous auriez fait quoi?
J'aurais, comme je vous l'ai dit, travaillé sur des programmes structurants qui pourraient résoudre un peu plus rapidement les problèmes de la plus grande majorité. Un programme agricole, aujourd'hui, le mettre en place, ne demande pas une coalition. Repartir sur base des résultats qu'on a déjà actuellement pour reformer l'administration de l'État ou pour former le système d'enseignement, ça ne demande pas des coalitions. C'est juste une question de mettre en place les études qui existent, de voir ce que ça coûte, de voir l'expertise qui est disponible pour mettre en place les projets et les exécuter, et puis trouver des techniciens qui sont capables de monter des projets et de chercher des ressources, parce qu'aujourd'hui le pays n'a pas ces ressources-là. En attendant qu'il s'attaque à son fameux fléau de corruption qu'il cite tous les jours, il aurait pu faire procéder de manière à identifier les études qui existent, les projets qui existent, les expertises qui se déclinent et chercher des ressources pour le pays.
Merci.
C'est tout. Et ça n'a rien à voir avec la coalition.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Maintenant que des décisions ont été prises, une annonce a été faite, celle de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et à votre avis, quelles conséquences ce discours ou cette annonce pourrait avoir sur les institutions du pays?
En ce qui concerne les institutions du pays, ça signifie qu'on rentre alors vraiment dans une crise ouverte, que là maintenant au niveau de l'Assemblée, il y aura une bataille sans merci entre les CASH et les autres partis d'opposition qui sont là vont donc essayer chacun de jouer ce qui est de son intérêt pour essayer de rallier à gauche à droite. On attend plutôt qu'il y a des gens, des partis qui ont déjà commencé à rallier CASH dans le cadre de l'Union sacrée. Hein. On apprend que les MLC seraient en train de négocier, de faire une coalition avec, dans le cadre de l'Union sacrée, tout ça. Donc moi, la question de tout ça, c'est que comment concrètement on va faire une nouvelle Union sacrée, et cette Union sacrée, comment elle va aboutir à une meilleure gouvernance. Parce que les gens que l'on voudrait ramener dans cette sacrée, c'est des gens qui posent le problème actuel. Et donc, comment quelqu'un qui pose des problèmes aujourd'hui va se transformer comme par un goût de magique, sommet en faveur de bonne gouvernance, en faveur de la nourriture et tout ça pour faire une attirer les biens de la population congolaise. Je me pose, pour moi, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va y avoir une grande course pour reprendre dans la marmite, pour reprendre dans les gâteaux nationaux, en prévision probablement des élections qui vont venir en 2023. C'est ce qu'on va assister, et ce qu'on va assister aussi, c'est qu'il faut redouter également, en ce qui concerne les institutions, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, ça concerne la sécurité nationale. Alors, en ce moment-là, nous savons qu'il y a un certain nombre d'officiers qui soutiennent les FPC dans l'armée, dans la mer, et tout ça. Et ces gens-là, quelle sera leur réaction, puisqu'il y a une rupture qui a été dit d'une manière, même si c'est un peu voilée, il y a une rupture totale. Les annonces qu'on a pu avoir en moins de 6 mois, on a écouté des appels des hauts commandements de l'armée pour dire on reste fidèle, on reste loyal au président de la République. Ce qui montre déjà qu'il y a un problème au niveau de ce corps. Lorsqu'on commence à faire des déclarations pour dire voilà, nous restons loyal, c'est qu'il y a un problème de loyauté qui se pose déjà.
Merci, professeur Maindo.
Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à ce niveau?
Merci, professeur Diop Mudimbi. C'est quoi les conséquences, n'est-ce pas, de cette annonce de nommer un informateur, n'est-ce pas, pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale? Les conséquences de cette annonce sur le plan des droits?
Les conséquences sont telles que, d'abord, nous sommes dans un système de partis politiques multiples, mais dont aucun n'a réussi à obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire le système multiple, le système multipartite à parti dominant. Alors, la conséquence est qu'il y aura une lutte d'abord de positionnement des différents partis politiques pour trouver une place au sein du gouvernement. Moi, personnellement, je suis un peu optimiste. Je dis, même si nous pouvons arriver à former, à obtenir une nouvelle majorité, cette majorité, c'est vrai, elle sera constituée des gens qui constituent des problèmes pour le système actuel, mais ici, un leadership agissant peut aider à promouvoir une nouvelle gestion pour la République de manière à ce que le peuple puisse réellement trouver son compte dans la nouvelle gouvernance.
Maître Charles Mouchizi, pour vous, quelles pourraient être les conséquences à la fois politiques et juridiques sur les institutions politiques du pays?
Je crois que ça ne va pas apporter grand-chose. Ce sont les mêmes acteurs qui vont se maintenir. On sait, comme on dit à mes prédécesseurs, que ça va être finalement plus une lutte de positionnement qu'une lutte de conviction pour... d'une ligue réelle qui peut servir les intérêts de l'État. Sur le plan juridique, à part, je ne vois pas ce que ça va apporter non plus, parce qu'il n'y aura aucune réforme substantielle. D'autant plus que si jamais il y a une majorité, une nouvelle majorité, elle va fonctionner sur base des textes qui existent, mais ce sera une majorité plutôt d'opportunistes que des personnes convaincues. Et donc c'est pour cela que je suis chaque fois en train de systématiser la responsabilité individuelle d'un chef d'État dans un pays comme celui-ci, à pouvoir mettre en place et à piloter un programme réel de développement. On l'a vu avec Laurent Désiré Kabila, avec très peu de temps, il a obtenu des résultats. Et donc, il n'y a personne, a priori, sur qui il peut compter pour dire qu'avec lui, je peux et avec celui-là, je peux. On connaît combien nos politiciens se prostituent, combien ont changé 5-6 fois de camp et de parti politique. Et donc, du coup, en termes de fidélité, bah, je ne vois même pas comment il l'aura. En termes d'efficacité, il ne l'aura pas, parce que parmi ceux qui se sont maintenus au pouvoir, il n'y a pas de performance qu'on a noté d'eux. On n'avait vraiment pas noté des performances particulières pour des gens qui ont passé plus de 10 ans dans le gouvernement. Et donc, du coup, il donne vraiment l'impression de quelqu'un qui a tout le temps à perdre, quoi. 2 années, presque la moitié de son mandat, se termine dans des querelles et des combats politiques. Aucune action d'envergure, dilapidation systématique du budget de l'État. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc je vois vraiment rien qui va... Alors il va avoir son informateur, il va avoir éventuellement sa nouvelle majorité, mais ça changera quoi ? Quelle est la place de la population là-dedans ? Moi je parle comme aussi membre des organisations de la société civile du Congo. Donc, lorsque nous parlons des structures, des aspects pro-pauvres chez nous, nous parlons de l'énergie, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'enseignement, nous parlons... Mais il n'y a rien qui peut développer le pays si on ne fait pas des actions concrètes en termes de projets. Et ces projets-là n'existent pas, et le chef de l'État démontre clairement depuis 2 ans qu'il est incapable de mettre en place un projet structurant. Incapable.
Professeur Alphonse Maïngo, est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer, n'est-ce pas, de plein pied dans une phase où on va assister à ces débats interminables des juristes sur l'interprétation des différents textes des droits, parce que chaque camp va tenter, n'est-ce pas, de recourir, n'est-ce pas, aux juristes pour qu'ils essaient d'interpréter les textes en leur faveur.
Ça a déjà commencé depuis le début de cette crise. On avait déjà commencé à entendre des discours de part et d'autre, chaque camp mobilisant ses propres juristes, ses propres constitutionnalistes pour défendre son point de vue. Et ce n'est pas du tout un hasard si le président de la République s'est battu pour nommer au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est parce qu'il sait qu'il y a un danger majeur là-bas. Et donc il faut qu'il contrôle, il faut qu'il puisse avoir ses hommes à lui là-dedans. Et donc on est en train de reproduire les mêmes systèmes où chacun veut avoir ses hommes à lui pour contrôler, pour monopoliser les pouvoirs, pour imposer une dictature. Et le discours qu'on a suivi aujourd'hui, ça se ramène à ce que le bas appelle, c'est un discours d'auto-implication. Il se donne le bon rôle, tout, c'est les autres. On accuse les autres, on culpabilise, on se victimise. Mais soi-même, on est aussi objet de bonheur, comme disait tout à l'heure le maître, on est objet de bonheur. Le système actuel était déjà tourné en 2018. Si il n'y avait pas eu ce deal que l'UDP a signé avec le FCC, il n'y aurait plus, on parlerait plus de trompage. Maintenant, ce serait déjà du passé. Voyez-vous. Donc, ça, c'est une question importante. Et ensuite, le discours qu'on a entendu, c'est un discours qui ressemble plutôt à un discours de l'opposition, quand on se réfère aux travaux de par exemple, de Philippe Bourg. Le discours de l'opposant, il y a un discours d'affliction. Donc on accuse les gens qui sont au pouvoir, ils sont mauvais, ils font ceci, ils font pas ça, ils n'aiment pas le peuple, ils sont surtout le peuple. Et c'est aussi un discours d'invitation au changement. Et donc, et dramatisation. On appelle les gens, il faut maintenant qu'il y ait un changement, on dramatise ce qui se passe. Alors que celui qui est au pouvoir, il doit plutôt faire un discours de conviction pour montrer qu'il est vraiment engagé, il travaille, il fait des progrès, il fait des réalisations, et il montre que l'avenir sera meilleur. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu dans ce discours.
Et à votre avis,
là, si vous êtes dans cette situation, et là, les juristes vont avoir à faire des discours juridiques, mais ce n'est pas ça. C'est passé à côté de l'essentiel.
Professeur, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez conclure. À votre avis, qu'est-ce que vous proposerez, n'est-ce pas, pour que l'on sorte de ce que vous venez d'appeler une crise ouverte avec ces discours prononcés ce dimanche par le chef de l'État?
Alors, pour moi, il y a 2 solutions possibles. La première solution, qui est la solution la plus facile et qui nous permettrait de surmonter cette crise, c'est que les deux alliés, les deux chefs de coalition puissent se mettre ensemble, qu'ils arrangent leurs problèmes et le pays se remet en marche. Ça, c'est la solution la plus facile. Et la solution la meilleure et qui sera la plus coûteuse, c'est simplement de rabattre les cartes, donc de tout battre à plat et de convoquer des élections générales pour qu'on puisse avoir une nouvelle légitimité avec un président légitime,
merci,
avec des députés légitimes, etc. Voilà.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Nous risquons d'assister à une lutte sur le terrain des droits. Est-ce que c'est votre avis, comme vient de le dire le professeur Maindo?
C'est une évidence que il y aura, et cette lutte a déjà même commencé entre les juristes, selon que l'on est du camp du FCC ou du camp du CASH, pour montrer que chaque camp est dans la légalité. D'ailleurs, quand vous entendez le camp du FCC, certains déjà ont commencé à crier à une violation grave de la Constitution, et le camp du CASH est en train d'utiliser des discours légitimateurs pour montrer que le président de la République agit réellement dans la légalité.
Et à votre avis, professeur Moudimbi, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est quoi la solution idoine? Et ça sera votre conclusion.
Oui, mais pour moi, je me dis qu'il ne faudrait pas avoir une vision pessimiste. Et quand nous lisons, nous entendons bien les discours du président de la République, il y a la volonté, dans les discours, je dis bien, il y a la volonté d'assister à un changement, d'améliorer les conditions de vie de la population, et que son allié FCC était en train d'exercer la pesanteur pour la matérialisation de sa vision. Bon, comme il espère trouver une majorité au sein, une nouvelle majorité, accordons-lui encore le crédit pour voir ce qu'il va réellement faire, si la population, la situation de la population va s'améliorer. Au cas contraire, le peuple est le grand arbitre, il va se décider en 2023.
Merci, cher Lemoussizi. À votre avis, c'est quoi la solution? Parce que on entre là dans les débats interminables des juristes, et comment sortir de ces débats? C'est quoi la solution pour que la paix, la stabilité ne soient pas préjudiciées dans ces pays?
D'abord, le chef de l'État doit se rendre compte qu'il présente une piètre image en termes de respect des accords. Et donc, chaque fois, à chercher à se délier d'un accord où il s'est librement et volontairement engagé, fait de lui plus ou moins un lâche, excusez-moi le mot. Il doit se rendre compte qu'il doit pouvoir faire recours à toutes ses ressources individuelles pour être un peu plus élégant, ne serait-ce qu'en faveur de la population, être élégant par rapport à ses partenaires politiques, au mieux de la paix entre eux et au mieux des intérêts de la population.
Merci.
En général.
Merci.
Parce que chaque fois qu'il invoquera un combat politique, il mettra simplement en berne les intérêts de la population tant que lui-même cherchera à s'en sortir d'abord.
Merci.
Or, on sent très bien qu'il ne s'en sort même pas.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était la technique, à Dona Madimba et Kelly Nkoute qui ont réalisé cette émission. À la présentation, c'est Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.